9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS pour à votre santé, et nous allons cheminer ensemble vers la pleine santé ce matin. Et mon invité est Sophie Binabi. Bienvenue Sophie.
Merci beaucoup Philippe.
Vous êtes praticienne en Ayurveda, et comme beaucoup de mes invités, vous avez quitté l'autoroute. Vous êtes passée des systèmes d'information RH à praticienne en Ayurveda. Elle était où la sortie de l'autoroute?
En fait, elle s'est fait assez rapidement, puisque c'est en 2017 que je suis partie de mon travail d'ingénieur en informatique. Ça me parlait plus du tout, et ça n'avait plus du tout de sens, et je me voyais pas en fait faire carrière dans ce domaine.
C'est votre corps qui a donné l'alerte en premier.
Exactement. J'ai eu des maux, en fait. J'ai commencé à somatiser mon mal-être professionnel dans mes genoux. Et mon genou s'est bloqué. Et c'est plusieurs semaines d'ailleurs, plusieurs mois même. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à réfléchir et à me dire « Là, il y a quelque chose qu'il va falloir que je prenne en compte et que je réfléchisse vraiment à la suite. »
Alors, quand on remonte dans votre arbre généalogique, il y a votre grand-mère d'origine algérienne kabyle de Tizi Ouzou qui vous soignait avec les outils de la nature. Et alors, elle utilisait quelque chose qu'un ORL m'a pas forcément conseillé, c'est qu'elle vous mettait de l'huile d'olive chaude dans l'oreille avec de l'ail.
Exactement.
Il m'a dit, faut faire attention, ça peut crever les tympans.
Alors oui, parce qu'il ne faut pas le faire si vous avez les tympans bien sûr percés.
Voilà.
Il faut toujours vérifier avant. Mais en fait, c'est un remède kabyle pour les otites qu'on met avec de l'huile, d'ailleurs d'olive kabyle, donc de l'huile d'olive noire qu'on met dans les oreilles avec de l'ail.
Et ça soigne de tout. Hein. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à la pharmacie. Vous prenez l'huile d'olive kabyle.
L'huile d'olive kabyle avec de l'ail infusé dedans, et on met trois gouttes en fait dans l'oreille. Et puis après, on peut recouvrir d'un oignon. C'est ce qu'elle me faisait. Elle me faisait un cataplasme d'oignon dessus. Donc ça sent super bon, bien sûr. Mais c'est radical. Je peux vous dire que ça m'a sauvé des nuits. Et en fait, ça, on le retrouve aussi dans la médecine indienne.
Bon. Le Binabi de votre nom, c'est votre grand-mère?
C'est ma mère. C'est mon père, excusez-moi.
C'est votre
mon
père.
Oui.
Ouais. D'accord.
Voilà.
Et votre grand-mère kabyle, c'est pas Binabi?
Alors, ma grand-mère kabyle, c'est Rasoul.
D'accord. Je veux pas être indiscret, mais vous avez grandi sans votre père et vous êtes construite sans lui. Et ça vous a permis finalement de trouver votre colonne vertébrale et votre identité. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ça force à se débrouiller tout seul, à croire en soi, à démultiplier ses forces aussi en représentant un peu ce côté masculin et maternel qu'on n'a pas eu au final.
Parce que vous ne l'avez pas connu, votre papa?
Non, pas du tout. Je l'ai vu qu'une seule fois, justement, en Kabylie, une seule fois dans toute ma vie. C'est un peu ma maman qui a eu ce rôle de papa et qui m'a tout de suite... enseigner ce développement un peu masculin au niveau du caractère, en fait.
Alors, mais vous êtes 100% kabyle, alors?
Je suis 100% kabyle des deux côtés, du père et de la mère.
Et Sophie, ça vient d'où? quelle région? Ça vient de quelle région de Kabylie, la Sophie?
Alors, d'aucune, bien sûr, sans vous étonner. En fait, c'est parce que la sage-femme de ma mère, qui l'a couchée, s'appelait Sophie. À la base, je devais m'appeler Myriam. Et ma mère a eu un coup de foudre pour ce prénom, parce que ça avait un petit peu maturé dans son esprit, et elle s'est dit, tiens, c'est un signe, et je vais l'appeler Sophie.
Comme Sophie Marceau.
Exactement.
Vous rêvez de faire de la radio, donc ce matin vous en faites, mais vous rêvez d'en faire à des fins plus, on va dire, plus professionnelles, justement pour vulgariser ce que c'est que l'Ayurveda. Pourquoi cet amour des mots et cette envie de faire de la radio?
Parce que je trouve ça magnifique de pouvoir porter en fait des messages par la voix. La voix, je trouve ça très magique en fait. Et ça permet de toucher les oreilles des personnes intéressées, de faire avancer en fait les cheminements intérieurs. C'est ce contact à la voix qui est très proche en fait de l'être qui me parle beaucoup.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous faites partie de la nouvelle génération. Moi, tout le monde me dit, mais la radio, c'est fini, tu sais, maintenant, c'est les réseaux sociaux.
Pas du tout.
C'est YouTube, c'est... Non.
Non, on écoute encore la radio. Les podcasts, en fait, sont très à la mode.
C'est de la radio, les podcasts.
C'est de la radio, exactement, ouais, exactement. Et je trouve que ça a une magie particulière.
Alors, vous avez publié plusieurs livres sur l'Ayurveda. Je cite le grand livre de l'alimentation ayurvédique chez Le Duc.
Oui.
Alors, il y a Ayurveda, mon programme automne-hiver, et Ayurveda, mon programme printemps-été chez Jouvence Édition. Mais il y en a d'autres, livres que vous avez écrits sur l'Ayurveda.
Sur les rituels beauté et le premier oracle de l'Ayurveda français aux éditions Très Daniel.
Et à noter que c'est la première émission que je consacre à l'Ayurveda en toutes ces années. Et Dieu sait qu'on m'en a souvent demandé des émissions sur l'Ayurveda. Je ne savais pas par où commencer. Alors, j'ai appris finalement que l'Ayurveda, c'est une médecine reconnue par l'OMS depuis 1982.
Tout à fait.
C'est pas du tout une médecine parallèle.
Non, c'est une vraie médecine avec un vrai système de santé. D'ailleurs, ça a été reconnu aussi en 1947, après la colonisation britannique par les Indiens. Donc ça a été reconnu assez tard en fait au final et ça a été adopté par 70% des Indiens. Donc, sachant qu'en fait, en Inde, on se soigne gratuitement avec l'Ayurveda. Donc c'est vraiment la médecine de tous les Indiens. Et en France, malheureusement, elle n'est pas encore reconnue comme système de médecine.
Bon, alors en France, on est toujours un peu en retard sur tout. Et puis on a des problèmes avec tout.
Donc, c'est
non,
pas vrai.
En termes de médecine, on est...
C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Alors que dans d'autres pays, par exemple la Russie, on va avoir la Suisse, la Roumanie, l'Ayurveda est reconnue comme médecine. Il y a des vrais médecins qui peuvent pratiquer l'Ayurveda. Donc oui, c'est un vrai système médical qui fait partie aussi du patrimoine médical en fait mondial. Donc c'est pour dire son importance.
On se forme comment à l'Ayurveda aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on peut se former en fait en France dans certaines écoles qui vont en fait s'appuyer sur ce qu'on appelle les textes classiques, donc les traités ayurvédiques.
Ça s'appelle comment
les Védas.
Les Védas.
Les Védas, exactement. Donc il y a plusieurs ouvrages comme ça et en fait dedans on va retrouver absolument toutes les bases de cette médecine ayurvédique. Et ce qui est très intéressant, c'est bien sûr de partir à la source en Inde pour se former aussi dans des cliniques ayurvédiques. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le nord de l'Inde et dans le sud de l'Inde pour en fait avoir des cas pratiques, pouvoir aussi, par exemple, s'entraîner sur la prise du pouls qu'on appelle Nadi Pariksha.
Alors ça, c'est la base. Et vous dites qu'il faut des années pour apprendre à prendre le pouls de façon ayurvédique.
Les médecins, en fait, en Inde disent qu'il faut 10 ans en moyenne pour pouvoir bien maîtriser la prise de pouls. C'est extrêmement complexe. C'est très difficile à faire.
Et alors, qu'est-ce que ça nous donne comme indication que de la prise de pouls du patient ?
Absolument tout. On peut tout savoir de vous. En fait, on va connaître, par exemple, l'état de vos tissus, ce qu'on appelle les dhatus en Ayurveda. Donc, il y en a 7. Le sang, la lymphe, les muscles, les os, les tissus reproducteurs, la graisse. Et en fait, ces tissus, ça va permettre aussi de connaître un peu votre état des lieux. On va aller checker aussi votre digestion, votre mental. Est-ce que vous avez un mental qui est plutôt
posé? Dans la prise du pouls?
Dans la prise du pouls, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de prise. Il y en a 3, un peu comme en médecine chinoise. Et en fait, on pose les 3 doigts sur l'artère radiale. Et on va venir en
Alors montrer ça, c'est au niveau du poignet. Hein.
Voilà, au niveau de votre poignet, en fait, vous avez donc du côté en fait extérieur de votre poignet, vous avez l'artère radiale et vous allez en fait appliquer l'index, le majeur et l'annulaire, de sorte en fait à bien sentir les vibrations de votre pouls, donc le sang qui va passer dans cette artère. Et en fait, vous allez appuyer de sorte vraiment à sentir le tambourinement de votre cœur. Et en fait, plus vous allez appuyer en profondeur, plus vous allez avoir des niveaux de perception, de compréhension des tissus et des canaux de votre corps. Et donc, on peut aller vraiment en profondeur. Les médecins qui maîtrisent ça peuvent vraiment tout savoir, c'est-à-dire votre passé, donc ce que vous avez pu développer dans le passé, et même ce que vous pourrez éventuellement développer dans le futur. Donc, ça permet aussi d'anticiper, parce que l'Ayurveda est aussi une médecine très préventive.
Prédictive.
Exactement, très préventive, par la compréhension...
Préventive ou prédictive ? Parce que vous dites, on peut anticiper...
C'est un peu les deux, en fait. Pour moi, elle est plus, prédictive, dans le sens où on peut prédire un petit peu les fragilités que vous pouvez porter, celles qui sont en train de se mettre en mouvance dans votre corps et que dans les années qui vont arriver, en fait, vous pouvez peut-être développer en termes de fragilité. Par exemple, la thyroïde qui commence à s'affaiblir et puis on va vous dire, oulala, va falloir faire attention parce que là, si vous ne faites pas attention, d'ici 5 ans, hein, l'hypothyroïdie, ça peut vous guetter. Voilà, ça peut être ce type de choses. Et puis préventif, parce qu'en comprenant, en fait, votre terrain ayurvédique, on peut savoir aussi quelles sont vos fragilités. Voilà, on pourra peut-être en parler des terrains ayurvédiques, mais quand on comprend vraiment l'essence de la personne, on peut savoir si elle est plus sujette aux inflammations, aux problèmes articulaires, aux problèmes gastriques ou par exemple aux problèmes nerveux. Donc c'est un peu les deux au final.
Alors le terme Ayurveda, ça a une signification particulière ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Ça veut dire connaissance de la vie, même philosophie de la vie, philosophie du vivant, connaissance du vivant. C'est vraiment la connaissance de l'être dans toute sa globalité et comprendre aussi la nature en tant que telle. Donc, c'est-à-dire les saisons, comment est-ce qu'elles nous influencent, comprendre aussi un petit peu le fonctionnement des animaux parce que l'Ayurveda aussi s'est beaucoup calé dessus. Voilà, sur l'appréhension de certains comportements animaliers pour mieux comprendre aussi l'être, parce que pour l'Ayurveda, on est la nature.
En Ayurveda, ce qui est fondamental à comprendre, c'est la question de l'équilibre et donc du déséquilibre.
Exactement.
Quelles sont les causes du déséquilibre en Ayurveda ?
Alors, il y en a beaucoup. C'est multifactoriel. Les choses qui vont revenir souvent, ce sont les saisons. Donc, ça qui nous touche tous. À chaque saison, vous allez en fait avoir des fragilités, des forces qui vont vous être apportées de par en fait la nature de la saison. Par exemple, en ce moment, on est en été. C'est une saison qui est plutôt asséchante, qui est pénétrante dans le sens où il y a beaucoup de lumière, qui est très lumineuse. Et comme elle est chauffante aussi, vous allez être un peu plus au ralenti. Vous allez avoir un système digestif qui est moins performant, qui va moins bien brûler. On dit que plus il fait froid à l'extérieur, plus votre feu intérieur brûle.
On va parler du système digestif parce que ça aussi c'est central tout à l'heure.
Tout à fait.
Donc cette saison d'été, donc en Ayurveda, ça signifie quoi ?
Ça signifie qu'en fait il va y avoir beaucoup de feu et d'eau dans la saison, donc beaucoup de pitta, le dosha pitta, le dosha de la transformation.
Alors dosha, on a pas mal, on explique tous les mots.
Oui, il y a beaucoup de choses. Donc dosha, en fait, ce sont les énergies vitales qu'on appelle aussi les défauts. Ce sont les énergies vitales qui sont composées des cinq éléments. Peut-être qu'on peut commencer par ça déjà. Donc en fait, on a le feu, l'eau, la terre, l'espace et l'air. Ça, c'est les cinq éléments. À travers ces cinq éléments, on va regrouper en fait ces cinq éléments en paires qu'on appelle les doshas. Donc par exemple, pitta, c'est le dosha de la transformation. C'est le feu et l'eau. Donc la transformation, ça va être la transformation métabolique. Quand vous allez manger un aliment, vous allez le transformer à la fois en déchets et en énergie. Voilà. Quand vous allez comprendre une information, vous allez la transformer pour l'assimiler. Et ben ça, c'est pitta aussi qui va s'en occuper dans votre corps. Donc ça va être lui aussi qui va agir tout ce qui va être transformation hormonale, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de la transformation. Ensuite, on a vata. Vata, c'est l'air et l'espace. Lui, ça va être le dosha du mouvement, l'énergie du mouvement. Donc quand vous allez avoir, par exemple, quand vous allez parler avec quelqu'un, c'est un mouvement vers l'extérieur, un mouvement vers la personne. C'est vata qui va s'en occuper. Et puis tous les mouvements du corps, la circulation, le sang, les mouvements de votre aliment pour qu'il aille jusqu'en bas et qu'il finisse son processus de digestion, c'est vata qui va s'en occuper. Et la dernière énergie, c'est kappa.
Oui, mais elle est toute seule.
De quoi ?
Non, on a fait deux paires là.
Oui. Le dernier, c'est kappa. Kappa, c'est la terre et l'eau. Ah, parce que vata, c'était l'air et l'espace.
Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Donc, on peut avoir des énergies qui regroupent des éléments qui ont déjà été pris.
En fait, chaque dosha va être composé de deux éléments à chaque fois. Et donc, kappa, c'est la cohésion. C'est, par exemple, la cohésion des articulations, les liquides, le liquide synovial dans les articulations, c'est kappa. Tout ce qui va être protection, le mucus aussi, c'est kappa qui va le gérer. Et lorsque vous faites preuve de protection vis-à-vis d'un autre être, c'est votre kappa qui est en mouvement dans votre esprit. Voilà, donc ça c'est les trois énergies.
Bon, Sophie Benabi, vous avez une mission aujourd'hui, vous devez nous apprendre déjà la première initiation à l'Ayurveda.
Avec
et vous
plaisir.
Êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, elle n'est pas devenue kinésithérapeute, mais elle fait quand même des massages. Hein. C'est Sophie Benabi, mon invité. Oui. Je rappelle que vous êtes praticienne en Ayurveda. C'est comme ça qu'on dit praticienne en Ayurveda en France. Hein.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est voilà. La bonne appellation.
Vous avez écrit plusieurs livres sur l'Ayurveda. Et pour nous, c'est important parce que on n'y connaît rien. Même si l'Ayurveda est très populaire aujourd'hui, et alors il y a un vrai tourisme médical en Inde hein, aujourd'hui, de personnes qui partent faire des retraites.
Exactement, des panchakarma, ce qu'on appelle le fameux panchakarma. Donc c'est la cure de régénération totale du corps et de l'esprit, où on se nettoie et on se régénère vraiment en profondeur. Et on dit qu'on gagne des années de vie quand on fait un panchakarma.
C'est vrai ?
Oui.
La principale idée reçue qu'on a et l'image qui nous vient à l'esprit, c'est, vous savez, l'huile qui tombe sur la...
Oui, le shirodhara.
C'est ça,
ouais. Exactement.
C'est la pratique la plus répandue ou c'est réducteur de le réduire à ça ?
C'est hyper réducteur, mais c'est une première porte d'entrée en fait pour les personnes en général qui viennent à l'Ayurveda. C'est souvent par les soins corporels, notamment l'Abhyanga. Je sais pas si alors en fait c'est un massage ayurvédique qu'on trouve souvent, vous savez, dans les établissements zen, voilà, pour se faire masser. Donc l'Abhyanga, c'est le massage de tout le corps, voilà, du front jusqu'aux doigts de pied avec des huiles chaudes. Et le shirodhara dont vous parlez, c'est effectivement un soin qui commence à vachement se démocratiser en France, qui a une coulée en fait d'huile ou de lait chaud avec des plantes sur le front, de sorte à vraiment apaiser le système nerveux et c'est très très bon pour le stress.
Et pourquoi vous n'êtes pas devenu kiné alors ?
Parce qu'en fait, j'étais pas très très bonne en maths au début. Et puis en fait, bah, j'avais d'autres, voilà, d'autres compétences où j'avais envie d'explorer un peu plus. Et en fait, les ressources humaines, c'est ce qui m'appelait au moment où j'ai fait mes études. Voilà, j'avais envie de soigner l'humain, mais autrement.
Bon, parce que vous avez toujours rêvé de soigner les gens, en tout cas.
Toujours.
Ça, au moins, c'était, c'était au cœur de votre action.
Ah, mais complètement, c'était viscéral en moi, vraiment.
C'est dans votre ADN.
Tout à fait.
Alors, on a commencé à voir les premiers mots. Dosha, c'est un mot qui va revenir souvent. Dosha, vous nous avez expliqué tout à l'heure que ce sont nos forces vitales et elles se dérèglent très facilement.
Oui.
Qu'est-ce qui les dérègle ?
Alors, absolument tout. Quand vous allez en fait avoir une émotion, vous allez avoir vos doshas qui peuvent se dérégler. Donc, par exemple, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, quand vous êtes angoissé, quand vous avez de la tristesse, tout ça, ça dérègle votre dosha. Mais aussi ce que vous allez manger. Par exemple, si vous mangez quelque chose de piquant, des très épicés, vous allez augmenter votre feu. Donc vous allez en fait augmenter votre pitta, l'énergie du feu et de l'eau. Si vous mangez trop sec, vous savez par exemple des légumineuses, et que vous mangez trop froid, trop de crudités, là vous allez augmenter votre vata. Voilà, et si c'est trop
air
lourd...
plus c'est air.
Exactement. Tout à fait, bravo.
Et si vous... J'ai lu un très bon livre.
Bravo, bravo, parce que c'est pas facile à suivre. Et si vous mangez trop lourd, trop carné, des choses trop grasses ou trop frites par exemple, vous allez augmenter votre terre et votre eau, donc
c'est
votre
kappa. Kappa.
Exactement, voilà. Tout à fait.
Ça s'écrit kappa.
Kappa, et ça se prononce kappa ou kappa.
Ou kappa.
Tout à fait. Et du coup, donc voilà, ça, il va y avoir la température, les saisons encore une fois, et puis en fait absolument tout ce que vous allez faire va impacter vos doshas. C'est tout ce que vous êtes et tout ce avec quoi vous êtes en contact.
Moi, ça m'a passionné. Hein. Je veux dire, il y a juste une question de vocabulaire, mais après, ça va très vite. D'autant que dans vos livres, vous proposez des tests pour déterminer ce qu'on appelle le profil ayurvédique. Alors,
exactement.
Chacun d'entre nous a un profil ayurvédique. Qu'est-ce que ça dit de nous, finalement ?
Alors, ça s'appelle la prakruti, pour que je le prononce bien, ou la prakriti, si vous préférez, la constitution. Et en fait, cette constitution, c'est votre terrain ayurvédique depuis que vous avez été conçu dans le ventre de votre maman, et c'est votre terrain ayurvédique qui va vous guider jusqu'à la fin de votre vie. Il ne change jamais, il est immuable. Et ce terrain,
c'est notre ADN.
C'est votre ADN, exactement. Ouais. Mmh. Et ce terrain, il va vous aider en fait à comprendre vos forces et vos faiblesses. Donc, en fait, il y a 10 constitutions ayurvédiques au total. Les plus courantes en fait, c'est d'être de 2 doshas différents. Donc avec le premier qui va être cité, c'est toujours celui qui est en prédominance dans votre corps. Donc
même si on les a plus ou moins toutes en nous, j'imagine.
On a effectivement, vous avez raison de le dire, on a les 3 doshas. Tout le monde a les 3 doshas, ouais. Mais en proportion complètement différente. Mmh. Vous, moi, par exemple, on n'a pas la même constitution.
Ah non, c'est sûr.
Et même si vous avez la même constitution que quelqu'un d'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes qualités que la personne. Mmh. Donc en général, ce qu'on retrouve le plus en France, c'est Pitta Vata. Pitta Vata, donc c'est le feu, l'eau, et après on a l'air et l'espace juste derrière. Donc ce sont des personnes par exemple très créatives, très ordonnées, qui aiment bien aller au bout de leur objectif par exemple, qui vont avoir pas mal d'inflammation, pas mal de troubles digestifs aussi, et assez stressés, assez angoissés. Donc on est un pays qui a beaucoup quand même de Pitta Vata au niveau de la constitution, alors qu'en Inde on va retrouver beaucoup de Kappa. Vous savez, cette espèce de lourdeur, ce calme, cet ancrage aussi des Indiens, et ben on le retrouve beaucoup dans leur constitution. Et ça, en fait, on va le voir
ça,
aussi.
C'est pas chez les Algériens.
Chez les Algériens,
je vais me fâcher avec les Algériens.
Alors, du coup,
pour le calme, je voulais dire.
En cabine, on a Fodil, pas mal de Pitta.
Il y a Fodil qui me regarde. Il y a beaucoup de Pitta.
Il y a beaucoup de Pitta, ouais. Et pas mal de Vata aussi. Pas mal de Vata parce que le climat aussi s'y prête. Voilà, c'est un climat qui est plutôt sec, qui est plutôt chaud, qui est plutôt pas séchant. Donc on a des constitutions un peu plus fines.
Alors j'aimerais qu'on parle du feu digestif qu'on appelle
Agni.
Agni,
exactement.
D'accord. Donc, quels sont les différents types de feux digestifs qui existent ?
Alors, il y en a 4 différents. Donc, vous avez Sama Agni, c'est le feu digestif parfait qu'on devrait tous avoir. C'est le feu digestif où on va avoir en fait aucun problème. Donc, pas de gaz, pas de ballonnement, pas de rot, on digère tout, tout passe bien. Et la langue est bien rose quand vous tirez la langue le matin. C'est un indicateur de l'état de votre feu digestif. Donc, vous tirez la langue et vous regardez s'il y a des dépôts. S'il y a des dépôts...
À faire le matin, c'est ça ?
À faire le matin à jeun ou après la digestion, donc 3 heures après votre repas. Et là, vous regardez. En général, c'est pas très beau à voir. Hein. Il y a toujours des dépôts blanchâtres, jaunâtres, qui montrent que vous digérez pas bien.
Surtout si on est en état de jeûne, en fait.
Oui. En fait, normalement, oui. À jeun, vous devriez avoir la langue rose et sans dépôt. Là, ça veut dire que votre digestion est optimale. Ça existe, il y en a, mais c'est de plus en plus rare. Ensuite, vous avez Vishamagni. Vishamagni, c'est le feu digestif irrégulier. Ça, c'est le plus courant. C'est celui où, vous savez, on a les gaz, les ballonnements, les roux. On va avoir une faim qui est irrégulière. On va avoir... en fait, parfois, on va bien digérer, parfois pas. C'est très irrégulier, comme le vent. Vous voyez, c'est très mobile. Voilà, ça manque de stabilité digestive. Donc ça, c'est Vishama. Ensuite, on va avoir Tikshnagni. Tikshnagni, c'est quand vous avez un feu digestif qui est trop fort, qui brûle trop fort. Vous savez, quand vous avez faim toutes les deux heures ou que vous avez une faim qui est sans cesse en train de se réveiller, ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que vous avez trop de feu qui brûle. Ou quand vous avez des ulcères, quand vous avez des inflammations gastriques ou des reflux, ça veut dire aussi que votre feu digestif est trop déséquilibré. Il y a trop de feu qu'il faut qu'on apaise. Et ça peut donner d'ailleurs un feu digestif qu'on appelle Atiagni, c'est-à-dire que vous allez vous auto-brûler. Et ça, on le voit sur la langue quand vous avez, vous savez, beaucoup de craquelures sur la langue. Ça peut vouloir dire en Ayurveda, ça peut être d'autres signes bien sûr, mais ça peut être un signe que vous êtes en train de vous auto-digérer parce que votre feu, il est extrêmement brûlant. Et le dernier, c'est Mandagni. Ça, c'est un feu digestif qui va être lent. Donc quand, par exemple, vous allez mettre énormément de temps à digérer, que votre appétit ne se réveille pas très, très souvent, vous savez, par exemple, vous avez faim le matin, puis vous avez faim le soir, et entre les deux, vous n'avez pas forcément faim, ou le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas d'appétit. Ça arrive très tard dans la journée. Ça, c'est que votre feu digestif, il est trop lent, et il faut lui rapporter du feu, en fait.
Et comment est-ce que l'Ayurveda, donc, prend en charge le feu digestif? C'est ça qui est intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a moyen de le réguler,
oui,
de le modifier?
Tout à fait. On a la main mise dessus avec tout ce qu'on va faire au quotidien. Donc, par exemple, le sport est une façon très facile et à la portée de tous pour redonner du feu. Quand vous allez faire du sport, vous savez, vous sentez en fait que votre appétit se réveille parce que vous allez brûler vos toxines en fait en faisant du sport. Et en Ayurveda, ce qu'on va utiliser le plus, ce sont les épices. Les épices, les aromates. Ça, c'est c'est une clé merveilleuse pour pouvoir redonner de la puissance à son feu digestif.
Alors vous avez plein de recettes à base d'épices. Oui. C'est quoi les épices, on va dire, vraiment importantes à retenir?
Alors, surtout, les graines d'épices, si vous pouvez, ce sont les plus puissantes. Ce sont celles qui vont avoir le plus, en fait, d'huile essentielle à l'intérieur. Donc, par exemple, les graines de fenouil, les graines de cumin, les graines de coriandre et les graines de moutarde. Ça, en Ayurveda, nous, on a une petite astuce pour pouvoir les préparer. On fait ce qu'on appelle le vagar. Le vagar, c'est que vous allez, en fait, les faire revenir juste 30 secondes, le temps qu'elles crépitent et qu'elles commencent à libérer leurs arômes. Et ça, en fait, vous mettez dans du beurre clarifié ou qu'on appelle le semaine aussi. Alors, le seul souci, c'est que le semaine, on met du sel.
Sur beurre FM, le semaine, on sait ce que c'est. Voilà.
C'est délicieux.
Mais plus personne n'en fait, hein,
non,
du vrai.
C'est vrai. C'est alors là, juste les grands-mères
ouais,
qui en font encore.
Les grands-mères qui, dans leur vieux pot...
c'est vrai, dans leur pot voilà, leur pot en terre.
Leur pot en terre, elles ont du semaine, mais plus personne fait le beurre clarifié. Sauf pour moi du ramadan.
Oui, c'est vrai, mais ça revient un peu à la mode justement avec ce fameux ghee, ce beurre clarifié qui est juste magnifique pour la
santé.
Alors
le ghee, c'est la version indienne.
C'est la version indienne sans sel. Dans le semaine, on met du sel. Mais dans la version ghee, on met pas de sel. Donc après, c'est comme vous le préférez.
Donc vous les conservez dans le...
Alors on les fait revenir dans le ghee ou dans de l'huile d'olive, juste 30 secondes. Et en fait, ça va la faire éclater et ça va libérer ses substances actives. Et du coup, vous allez pouvoir nourrir votre système digestif en faisant cette petite préparation. Et les poudres d'épices, donc par exemple, les plus puissantes pour le système digestif, on va retrouver le gingembre, le fenugrec, on va retrouver encore le cumin, qui est une des épices phares. Et nous, en fait, en Ayurveda, on a des petits mélanges comme le trikatu. C'est en fait un mélange de poivre long, qu'on appelle le pipali, peut-être que vous connaissez, et le gingembre. Alors ça, c'est une bombe atomique pour redonner de la puissance au feu digestif.
C'est votre razzelanout à vous, ça?
Exactement, c'est notre razzelanout à nous. Tout à fait.
Donc vous faites un petit mélange?
On fait un petit mélange, sachant que les poudres d'épices, il faut toujours les mettre en fin de cuisson, parce que plus ça sent bon quand vous cuisinez, plus les substances actives sont dans l'air. Donc ça, c'est aussi la petite astuce, c'est de mettre toujours les poudres d'épices à la fin, parce que sinon vous allez, en fait, malheureusement, avoir peu de substances actives dans votre...
Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue préventif et curatif, on peut les utiliser à chaque repas.
Exactement. À chaque repas, et plus c'est lourd dans votre plat, par exemple, si vous faites des choses avec de la viande, des pommes de terre, du riz, du blé, tout ça, c'est considéré comme lourd en Ayurveda et ça demande beaucoup de puissance digestive. Donc, quand vous allez préparer ce type d'aliment, mettez des épices chauffantes, gingembre, cumin, de la menthe, même le razzelanout, ça peut être tout à fait ayurvédique avec le combo d'épices que ça contient. Par exemple, pour la digestion, c'est absolument sublime.
Et ça permet de booster la digestion, c'est ça que ça veut dire?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, en Ayurveda, la digestion, c'est la base de toute la santé. Donc, de votre bonne combustion, de votre bonne métabolisation, mais aussi de votre état émotionnel. Vous savez, en fait, c'est les fameuses études sur le microbiote. Pour nous, en Ayurveda, ça s'appelle Agni. Voilà, c'est un peu le microbiote.
Agni, feu digestif.
Tout à fait.
Voilà. Et le but, c'est de réduire l'amas.
Tout à fait. En fait, quand vous permettez à votre feu digestif de bien brûler, ça va venir brûler automatiquement les toxines et vous protéger.
Amas,
contre...
ce sont les toxines.
Ce sont les toxines, exactement. Ouais. Et amas, en fait, les toxines, elles vont se coller dans les endroits humides de votre corps. Donc, c'est pour ça que je parlais de la langue tout à l'heure, parce que c'est le reflet des toxines que vous avez à l'intérieur de votre système digestif. Les articulations aussi, vous savez, tout ce qui est problématique articulaire, polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Pour nous, en Ayurveda, c'est la conséquence d'un feu digestif qui ne brûle pas suffisamment et de trop d'amas dans le corps, de trop de toxines. Donc ça va vraiment dans les endroits humides. Et plus vous faites brûler votre feu digestif avec les épices, avec le sport, avec la respiration, le pranayama par exemple, enfin, il y a plein de techniques pour ça, plus vous vous protégez de ce type de troubles.
Bon, je fais le malin, mais les informations que je vous donne ce matin, je les ai trouvées dans un très bon livre qui s'appelle Le Grand Livre de l'Alimentation Ayurvédique aux éditions Le Duc. Je parlais de vous, enfin c'est Laura Azmar qui me parlait de vous. Il y a 15 jours ou 3 semaines, elle m'a dit, vous allez voir Sophie, elle est formidable. Elle avait raison. Et puis vous êtes notre invité jusqu'à 10h. Profitons-en.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, avec Sophie Benhabi qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes praticienne en Ayurveda. On vous retrouve sur les réseaux. Alors, comment s'appelle votre marque, on va dire?
Alors, elle s'appelle Les Aventures Vertes de Sophie. Donc, sur YouTube, Instagram et Facebook.
Pourquoi Les Aventures Vertes de Sophie?
Alors ça, c'était au tout début, en fait, de ma pratique. Pourquoi Les Aventures Vertes? Parce qu'au tout début, en fait, je savais pas encore vers quoi j'allais. Et pour moi, la vie, forcément, c'est une grande aventure. Donc, je voulais pas me cantonner à un domaine, parce que je savais pas encore exactement dans quoi me spécialiser. Et vert, parce que c'est la couleur de la nature, de l'amour, hein, c'est le chakra du cœur. Voilà, de la liberté. Pour moi, dès que j'imagine la liberté, c'est la couleur verte.
Comment vous expliquez la mode de l'Ayurveda aujourd'hui?
En fait,
mode, vous êtes d'accord avec ça ou...
C'est pas très beau, je trouve, mode, mais en même temps, ça reflète un peu l'engouement, effectivement, de ces dernières années pour cette médecine indienne. Je pense que c'est aussi une quête de sens, une quête de compréhension de ce qui arrive, en fait, à chacun d'entre nous. De mieux se connaître aussi. En fait, les gens qui viennent me consulter, par exemple, pour l'Ayurveda, c'est vraiment souvent ça. C'est mieux me connaître, mieux m'appréhender, mieux me comprendre, mieux me lire. Parce qu'en Ayurveda, on a plein d'outils justement pour mieux se décortiquer en quelque sorte. Donc je pense que c'est ça, c'est la recherche de l'identité, de ce qu'on est, de vers quoi on va, de comment est-ce qu'on peut vivre en bonne intelligence avec soi-même tout au long de sa vie.
Alors il y a une alimentation spécifiquement ayurvédique?
Oui, en fait on a carrément une cartographie spécifique aux aliments en Ayurveda, donc à l'alimentation ayurvédique. Alors elle peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est hyper facile. Donc par exemple en Ayurveda, nous on a 6 saveurs. On va avoir l'amertume, l'astringence, le piquant, l'acide, le sucré et le salé. Et plus vous allez mettre ces 6 saveurs dans votre assiette, mieux vous allez digérer. Parce que plus vous allez représenter l'équilibre de tous les éléments et de toutes ces saveurs qui permettent de bien digérer.
Même s'il vaut mieux éviter de manger trop salé.
On est d'accord qu'il vaut mieux éviter de manger trop salé et trop sucré.
Et trop
en fait,
sucré
c'est
aussi,
équilibré. Ouais. Il ne faut pas avoir trop de certaines épices. Et après, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les viryas, l'énergie chauffante et refroidissante d'un aliment. Donc ça, en fait, par exemple, quand vous allez manger... En général, on peut se fier à la couleur. Par exemple, des courgettes, du riz, quand vous allez boire du lait. Ça, c'est plutôt une couleur rafraîchissante. Et ça porte en fait l'énergie de l'aliment qui va vous rafraîchir, vous refroidir.
Donc là, c'est une énergie qui est donc...
Plutôt, en fait, qui va vous...
Fraîche,
exactement. Ouais. Par exemple, qu'on pourra utiliser là pendant cette saison chauffante de l'été. Ça va refroidir votre système. Donc, c'est mieux, par exemple, pour tout ce qui va être bouffée de chaleur, problème d'inflammation au niveau des intestins, par exemple, parce qu'on va chercher à refroidir le feu qui brûle trop fort. Et puis, on a l'autre énergie qui est chauffante. Donc, par exemple, quand vous allez manger des carottes, quand vous allez manger de la viande ou même le yaourt à cause des ferments que ça va comporter, c'est chauffant. Ou quand vous allez manger du miel aussi, c'est chauffant. En fait, ça va s'expliquer aussi par la façon dont l'aliment est produit, voilà, est fabriqué. Par exemple, le yaourt, les ferments, c'est chauffant en Ayurveda. Et donc tout ça, pareil, ça va réchauffer votre corps et ça va être plutôt très intéressant à utiliser pendant les saisons refroidissantes, comme l'automne et l'hiver.
D'accord. Alors, il y a aussi les goûts. Et là, les goûts ont un impact sur la santé, finalement, et sur le mental, sur le corps et le mental. Expliquez-nous.
Donc, ce sont les fameuses 6 saveurs hein, que j'ai citées juste avant, effectivement, qui vont, en fait, impacter l'ensemble de votre organisme, parce qu'en fait, chaque saveur va avoir une affinité avec un ou plusieurs organes de votre corps et va impacter votre émotionnel. Par exemple, vous savez, les personnes qui vont manger sucré. On dit que quand on cherche le sucré, on cherche la compassion, on cherche le fait de se rassurer, de rapporter de la douceur. Hein, ça, c'est évident. Bah, en Ayurveda, on le dit aussi. Par exemple, les personnes qui sont très en colère, qui vont avoir beaucoup d'irritabilité, on va leur conseiller de manger des choses un peu plus sucrées. Quand on dit sucré, c'est pas le sucre des gâteaux ou les bonbons. C'est le sucre qu'on va retrouver dans l'aliment de manière naturelle. Le fameux amidon, par exemple, qu'on peut retrouver dans le riz, dans le blé, mais aussi dans la noix de coco, dans le lait, dans les yaourts. Tout ça, c'est le côté sucré, en fait, qui va venir apporter de la stabilité.
Lactose.
Le lactose. Parce que pour nous, le lait, par exemple, en Ayurveda, c'est, y a une façon de le boire et de le consommer. Ça peut être intéressant, d'ailleurs.
Oui.
Alors, en fait, en Ayurveda, pour le rendre plus digeste, on va le faire bouillir. Mais d'abord, on le dilue avec 2 fois son volume en eau. Donc, par exemple, vous prenez 1 tasse de lait et vous mettez 2 tasses d'eau. Vous le faites bouillir et vous rajoutez des épices à l'intérieur. Donc, par exemple, les épices qui vont super bien avec le lait, c'est la cannelle, la cardamome ou encore le curcuma avec un petit peu de poivre. Et là, vous permettez à votre système digestif de bien digérer votre lait.
Ouais.
Exactement.
En Ayurveda, il existe des aliments qui ne peuvent pas s'associer. Quelles sont les associations incompatibles?
Oui, c'est ce qu'on appelle Viruda Ahara. Donc, quand vous mangez ce type d'incompatibilité alimentaire, vous allez venir en fait appauvrir la force de votre agni, votre feu digestif. Et du coup, vous allez créer des toxines. Et en Ayurveda, c'est une des raisons aussi qui explique voilà, les maladies qu'on peut avoir par la suite, qu'on peut développer si on mange trop souvent ce type d'incompatibilité. Donc, par exemple, vous allez avoir la viande ou le poisson qu'on va mélanger avec du lait. Ça, c'est une catastrophe au niveau de la digestion. Vous allez en fait affaiblir votre feu digestif et alourdir en fait votre feu digestif. Parce que le lait, c'est lourd à digérer, la viande et le poisson aussi. Donc, vous associez 2 aliments qui ne s'associent pas très bien au niveau de la digestion. Vous avez aussi, par exemple, tout ce qui va être viande avec le radis. Parce que c'est acidifiant, ça va faire fermenter votre viande à l'intérieur de votre système digestif et vous créez des toxines. Vous avez les œufs avec la tomate. Donc ça, par exemple, la fameuse chouchouka que moi j'adore manger aussi.
Tellement bon.
Et ben, on est d'accord. Mais malheureusement, au niveau digestif, vous pouvez aussi vous observer. Est-ce que ça donne des gaz? Est-ce que ça vous donne des ballonnements? Est-ce que ça vous donne des douleurs gastriques? Soyez bien en observation de comment vous digérez ce type d'association. Ça va vous mettre aussi sur la piste de « c'est pas très bon pour moi ». Et les œufs avec la tomate, c'est pas tout le monde qui le digère bien, en fait, quand on regarde.
Mais c'est pas à cause des œufs, c'est à cause de la tomate.
En fait...
Je sais pas. Non, mais c'est vrai que la tomate est compliqué à digérer,
oui,
et les gens le savent pas toujours.
C'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, c'est très acidifiant au niveau du système digestif, la tomate. Et par exemple, la tomate, pour bien la digérer, on va plutôt l'utiliser avec du basilic et plutôt seule. On évite de trop l'associer. Vous savez, les fameuses salades avec plein d'ingrédients. Plus vous
c'est-à-dire
mettez...
tomate et concombre, c'est pas forcément le bon combo.
C'est pas toujours le bon combo pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont très bien le digérer, mais ceux qui ont une puissance digestive faible vont pas bien le digérer. Ça va donner des douleurs digestives, en fait. Et ça loupe pas. De toute façon, les crudités, c'est compliqué à digérer de manière générale pour les gens. Sauf en été. Et du coup, vous avez aussi les bananes avec le lait. Vous savez, dans le fameux smoothie du matin qu'on peut adorer prendre, et ben ça, pareil, c'est très acidifiant et c'est très lourd à digérer. Ça peut donner beaucoup de problématiques digestives.
Et si on prend du lait de soja ou enfin, qui n'est pas du lait.
Alors, vous avez raison.
Un jus de soja ou.
Oui, ça passera mieux. Le lait végétal, avec ce type d'association, c'est très bien. Par exemple, la crème végétale, au lieu de prendre la crème fraîche, quand vous faites du poisson ou de la viande, c'est très très bien. Ça, c'est parfait.
D'autres associations à éviter?
Alors, après, on a les épinards avec les graines de sésame, mais ça, c'est pas hyper courant chez nous.
Non, franchement, non.
Oui, ouais, le miel et le beurre en égalité. Ça, c'est assez courant. Vous savez, dans les tartines du matin, on aime bien faire ça. Bah, ça, pareil, c'est pas très bon, en fait, de mettre la même quantité. En fait, en Ayurveda, on va dire qu'il faut mettre plus de l'un ou de l'autre, mais pas en égale quantité, et faire chauffer son miel. C'est une catastrophe et c'est pas du tout bon au niveau des propriétés de votre miel. En fait, plus vous faites chauffer votre miel, donc c'est-à-dire au-delà de 38 degrés, quand vous mettez votre miel, vous savez, dans votre tasse fumante d'eau, de tisane, vous allez en fait abîmer les propriétés de votre miel et vous allez rendre les molécules instables, ce qui va venir en fait perturber votre digestion.
Ou pour faire du ras-le-pelouse.
Ou pour faire du ras-le-pelouse. Exactement. Tout à fait. Et donc tout ce qui va être pâtisserie à base de miel où vous allez chauffer, ou même du pain d'épices, enfin peu importe, mais vous allez en fait malheureusement tuer votre miel en faisant ça.
Qu'est-ce qu'on boit pendant les repas?
De l'eau tiède ou de l'eau bouillie refroidie.
Alors, expliquez la différence.
Donc, l'eau bouillie refroidie, c'est une eau qu'on va faire bouillir pendant, par exemple, 10 à 15 minutes. Et vous allez, en fait, donc, elle va un petit peu réduire. Vous allez la laisser retomber à température ambiante et vous allez la boire. quand vous faites ce processus de fabrication, en quelque sorte, ce procédé de réchauffement, vous allez permettre à votre eau d'être au contact avec l'élément feu. Et plus elle est en contact avec l'élément feu longtemps, plus elle devient hydratante. Parce que plus elle porte l'élément feu en Ayurveda, plus elle va, en fait, être pénétrante pour vos tissus. Vous voyez, donc plus elle va vous hydrater en profondeur. Et elle est meilleure pour le système digestif. Ouais. L'eau tiède, c'est juste de l'eau qu'on a chauffée, mais peut-être pas forcément très longtemps.
Je sais que les Chinois boivent beaucoup d'eau tiède le matin.
Tout à fait. Parce que ça permet, en fait, de laver le système digestif, de le réveiller et de permettre de mieux éliminer les selles et les urines le matin. Donc, très important de faire ça dès le lever du lit, plutôt que de prendre de l'eau froide ou de l'eau...
Oui, comme on a tendance à faire. Ouais.
Exactement. Vous allez faire chauffer votre eau, juste de l'eau simple, et vous la buvez à jeun le matin. Et alors là, pour les gens qui sont par exemple constipés, qui ont des problèmes à éliminer les selles, c'est magnifique.
Tini et Sophie, on boit pendant les repas ou pas?
Alors, on peut boire, mais à petites goulées. Parce que plus vous allez boire, plus vous allez noyer vos enzymes digestives et plus vous allez perturber votre digestion qui va venir. Donc en fait, en Ayurveda, on recommande soit de boire un tout petit peu, des petites goulées vraiment pendant le repas, ou alors de boire à distance des repas, ça c'est ce qui est le mieux. Donc soit avant, donc 20 minutes ou 15 minutes avant votre repas, ou 15 minutes ou 20 minutes après votre repas. Évitez de trop boire pendant le repas. De toute façon, vous allez voir que ça vous crée des nausées, c'est lourd, vous avez l'estomac qui est un petit peu... Enfin, vous sentez que ça appuie sur l'estomac. Et vous allez vous sentir rempli d'eau au final. Et c'est bien dommage parce que vous ne laissez pas la capacité digestive qui vous est nécessaire pour bien digérer.
Vous conseillez de prendre une douche avant ou après le petit déjeuner?
Alors plutôt avant votre petit déjeuner, parce que pareil, en fait, quand vous êtes en contact de l'eau, quand vous allez vous doucher, vous allez en fait perturber votre digestion, parce qu'en fait, vous allez refroidir votre système digestif, vous refroidissez votre organisme. Vous savez, la sensation quand vous sortez de la douche, vous avez froid quand même, vous sentez un peu rafraîchi. Et en fait, votre feu digestif, il va du coup se refroidir, c'est comme si vous éteignez votre flamme intérieure, vous savez, votre cheminée intérieure, ce fameux feu, cette image de feu, elle est éteinte par l'eau, c'est exactement ce que vous faites.
Finalement, la douche a un impact, une influence sur notre digestion.
Oui, et ça, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit d'ailleurs quand elles s'observent, qu'elles ont beaucoup plus de gaz et de ballonnement quand elles prennent leur douche juste après avoir mangé. Donc pareil, comme pour l'eau, prenez bien à distance de vos repas. 2 à 3 heures, c'est l'idéal.
Vous en parliez tout à l'heure, quels sont vos conseils ayurvédiques pour avoir une thyroïde en forme?
Ah, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà... au niveau en fait de tout ce qui va être micronutrition, parce que la thyroïde est très gourmande en micronutrition. Vous savez, il y a toute une homéostasie à avoir pour que la thyroïde fonctionne très bien. Donc pour ça, il faut faire des check-ups et bien vérifier toutes ces analyses de sang. Donc par exemple, la vitamine D, le magnésium, on va avoir toutes les vitamines du groupe B, on va avoir la vitamine E, la vitamine A, le zinc... le cortisol, il faut que votre surrénale en fait soit en bonne santé. Donc ça pareil, en Ayurveda, nous on a tout un tas de soins. Le fameux Shirodhara dont vous parliez, ça c'est très bon pour remettre les surrénales en bonne forme. Vous allez avoir aussi tout ce qui va être système digestif, parce que quand on est en hypothyroïdie par exemple, je citais l'hypothyroïdie mais ça peut être l'hyperthyroïdie, votre feu digestif il va être en peine, malheureusement vous n'allez pas bien digérer, vous allez avoir beaucoup de toxines qui vont remonter aussi. Donc pareil, tout ce qu'on a dit avec les épices, le sport, l'alimentation anti-inflammatoire par exemple, ça va permettre aussi à votre thyroïde de mieux fonctionner. Et puis nous en Ayurveda on a toute une pharmacopée aussi qu'on utilise. Vous savez, peut-être que vous connaissez le gougoulou.
Ah non, pas du
tout. Ça vous parle ?
Non, mais maintenant, je veux savoir ce que c'est que le gougoulou.
Alors, le gougoulou, c'est une résine d'un arbre qu'on appelle le gougoul et qu'on commence à trouver de plus en plus en France et qui, en fait, est très, très bon pour, justement, redonner de la force à la thyroïde, parce qu'en fait, ça va optimiser la conversion de la T4 en T3, les fameuses hormones de la thyroïde. Donc, ça permet ça et ça permet aussi de mieux métaboliser les aliments. Donc, vous allez mieux absorber et du coup, avoir un peu moins de carences quand vous mangez quelque chose.
Bien. Si vous n'avez pas retenu et noté tous les mots ce matin, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis sur toutes les plateformes qui rediffusent les émissions de Beurre FM. Vous pouvez suivre Sophie Benabi sur les réseaux avec ses aventures vertes.
Exactement.
De Sophie. Alors, on parlait de thyroïde, mais vous avez fait justement, notamment sur Instagram, très récemment, un post sur la thyroïde.
Tout
et puis,
fait.
Vous pourrez voir la vidéo YouTube sur notre chaîne de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Sophie.
Avec grand plaisir.
Et
merci.
Et passez une très belle journée en pleine santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.